9, le magazine.
Nous reprenons maintenant le fil de notre émission Parlons des droits humains, consacrée ce soir à Israël-Palestine, un déni du droit. Et la question qui se pose, c'est, et demain, quel avenir, quel futur pour les Palestiniens? Et notre invité est Pierre Stamboul, membre de l'Union juive française pour la paix et auteur du livre récent « La Nagma ne sera jamais légitime ». Donc Pierre, bienvenue de nouveau sur l'antenne. Tout à l'heure, en première partie d'émission, vous avez abordé avec Paul Lecomte la question du sionisme, l'histoire de la Nagma. Donc vous avez fait un peu un retour en arrière pour arriver à la situation actuelle. Et j'aimerais qu'on parte justement maintenant de cette situation actuelle. Et notamment revenir à cette loi sur Israël et la nation du peuple juif qui a été votée en juillet 2018. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez déjà nous redéfinir qu'est-ce que contient cette loi?
Cette loi, elle dit ouvertement ce qui existait dans les faits depuis 1948. C'est-à-dire qu'Israël est un État juif, ce qui veut dire que les non-juifs sont des sous-citoyens. Je rappelle, bien avant le vote de cette loi, il y a en Israël 20%, un peu plus, de la population qui n'est pas juive, qui sont les descendants de ceux qui ont miraculeusement échappé à l'expulsion en 1948. Déjà, dans la population juive israélienne, 10 à 15% de la population est sous le seuil de pauvreté. Dans la population palestinienne d'Israël, c'est plus de 50%. Déjà, il y a dans l'Israël d'avant 1948, de nombreux villages non reconnus, notamment parmi la population palestinienne bédouine du Negev, où un véritable nettoyage ethnique est à l'œuvre. Le village d'Al-Araki a subi sa 140e destruction il y a quelques jours. Les Bédouins du Negev, qui sont officiellement de nationalité israélienne, ont des titres de propriété qui ne sont pas reconnus, sont expulsés de leurs terres, et Israël veut faire du nord du Negev un nouveau territoire de peuplement. L'arrivée de 500 000 nouveaux immigrants juifs est prévue.
Effectivement, dans la loi, il est prévu que l'État encourage la colonisation juive. Donc ça veut dire que ce phénomène va se poursuivre.
Le phénomène non seulement va se poursuivre, mais on peut penser qu'on voit aujourd'hui que c'est un phénomène complètement galopant, que les colonies sont devenues non seulement le territoire d'intégristes religieux, mais également pour beaucoup de colonies, des territoires de banlieue où les loyers étant exorbitants à Tel Aviv ou à Jérusalem, de nombreux banlieusards viennent habiter dans des conditions luxueuses, dans les colonies, avec des routes de contournement où ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont en Palestine. L'arabe, qui était langue officielle, a été retiré, donc 20% de la population, sa langue maternelle n'est plus langue officielle d'Israël, mais c'est quelque chose qui a entraîné la protestation d'un certain nombre de juifs misrahim, de juifs orientaux, dont la langue maternelle était aussi l'arabe, parce qu'en Israël, on tient absolument à enlever aux juifs orientaux leur arabité, le fait que c'était leur langue, que c'était leur civilisation aussi, leur culture. Tout ça, ça essaie d'être effacé. Donc voilà, on est maintenant dans une espèce d'officialisation de l'apartheid.
Alors justement, vous parliez d'apartheid de tout à l'heure, on y revient. J'aimerais savoir, à votre avis, quelles sont les valeurs qui sont portées par l'État d'Israël? Parce que quand on lit cette loi, elle est complètement à l'opposé des valeurs portées par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du droit international d'une manière générale.
Mais ça a été déjà théorisé par un certain nombre de dirigeants sionistes. L'ancienne ministre de la Justice, qui n'est plus députée, Ayelet Shaked, elle expliquait que les valeurs du sionisme supérieure aux valeurs des droits de l'homme. Elle expliquait que les intérêts de l'État d'Israël étaient supérieurs à la question des droits de l'homme. C'est-à-dire que Israël, dans la constitution sioniste qu'elle s'est donnée, ne se situe dans aucun universalisme. Il se situe clairement dans une logique suprémaciste. Nous sommes un État juif et les non-juifs sont des étrangers dans leur propre pays.
Effectivement. Et dans un de vos derniers écrits, vous faites un parallèle entre l'État d'Israël actuellement et les valeurs qu'il porte, et puis un parallèle avec l'Allemagne des années 30. C'est quand même assez poussé comme parallèle.
Je ne suis pas le seul à le faire. Zev Sternel, qui lui n'a pas rompu avec le sionisme, a écrit que ce qui se passe en Israël rappelle sur de nombreux aspects l'Allemagne des années 30. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... Alors, on voit que le phénomène de montée vers l'extrême droite est aujourd'hui un phénomène mondial, mais il faut bien avoir dans la tête que ceux qui sont au pouvoir en Israël, avec de rares interruptions depuis 1977, sont les héritiers d'un courant du sionisme qui s'est lui-même appelé le courant révisionniste, qui a été fondé il y a un siècle par Vladimir Jabotinsky. Jabotinsky, dès les années 1920, a soutenu en Ukraine un mouvement antisémite qui était le mouvement de Petliura, qui a été brièvement à la tête de l'Ukraine pendant la révolution russe. Petliura était responsable du massacre de 50 000 juifs. Jabotinsky a quand même soutenu Petliura, que ce mouvement, dans les années 1920-1930, a soutenu l'Italie fasciste. Les révisionnistes avaient leur radio en Italie, que ce même courant, quand en 1937, l'Angleterre a arrêté l'immigration juive à cause de la révolte palestinienne de 1936, ils ont commencé à assassiner non seulement des Palestiniens, mais des soldats britanniques, et que ce courant a collaboré avec les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a assassiné des soldats britanniques en pleine guerre. Donc l'espèce de fascisme qu'on a aujourd'hui en Israël n'est pas le fruit d'un accident historique. C'est un mouvement qui a puisé ses sources dans un suprémacisme juif, dans un repli complet accompagné du colonialisme. Et voilà, on le découvre aujourd'hui, mais il faudrait lire un livre qui maintenant est un peu connu, Marius Schattner, qui avait écrit l'histoire de la droite israélienne. Ce fascisme décomplexé, il remonte à très loin dans l'histoire. Dans le livre de Marius Schattner, et je le relis dans mon livre, on trouve des tracts du groupe Stern, qui fait partie de cette extrême droite juive autrefois israélienne aujourd'hui, où il explique que les juifs du ghetto de Varsovie ont un sort bien plus enviable que les juifs sous le mandat britannique en 1940. Je dis, c'était des collabos, et ils sont aujourd'hui au pouvoir. Et le fait que ces gens-là parlent au nom de la martyrologie juive et au nom de nos parents qui ont été exterminés, pour nous, c'est une véritable obscénité.
Vous dites que cette situation de fascisme, finalement, est un phénomène mondial actuellement. Effectivement, on voit en Europe et ailleurs dans le monde de nombreux États qui virent à l'extrême droite. Quel est le positionnement de la communauté internationale, justement, par rapport aux positions d'Israël actuellement vis-à-vis des Palestiniens et en vue d'un futur?
La communauté internationale et l'ONU, de tout temps, sur cette question-là, ont une position totalement indigne. Il faut rappeler quand même la responsabilité de l'ONU, donc des vainqueurs de la guerre de 1945. En 1947, 29 novembre 1947, l'ONU vote la partition de la Palestine. Vous imaginez si elle avait voté la partition de la France, de quel droit il faisait ça? Il crée un État juif sur 54% du territoire, alors que les Juifs forment moins de 40% de la population, et un État arabe, ils n'ont même pas dit palestinien. Mais pire que ça, au moment de la partition, il n'y avait que 10 000 Juifs dans l'État arabe et 400 000 Palestiniens dans l'État juif. Entre eux, le vote de la partition et le début officiel de la guerre le 15 mai 1948, les futurs Israéliens avaient déjà nettoyé ethniquement, avaient déjà expulsé la quasi-totalité des Palestiniens de l'État que l'ONU leur avait donné. Donc l'ONU est déjà responsable de la moitié de la Nakba. Plus tard, la communauté internationale, ça a été une véritable lâcheté. Chaque fois qu'elle a voté des textes contre Israël, comme l'obligation d'évacuer les territoires occupés, la résolution de 142 en 1967, ça n'a jamais été suivi d'effet, il n'y a jamais eu la moindre sanction contre l'État d'Israël. Elle a laissé faire, elle a laissé Israël devenir un véritable laboratoire des technologies de pointe et de l'enfermement et il n'y a jamais eu de sanction. Par contre, quand les Palestiniens ont démocratiquement voté en 2006 et que le Hamas s'est retrouvé avec une majorité relative et au gouvernement palestinien, immédiatement, il y a eu des sanctions internationales de l'ONU, de l'Europe, tous les salaires qui ont été bloqués, tout le financement de la Palestine qui a été bloqué. Donc on a envie de dire que si on était Netanyahou, pourquoi on s'arrêterait ? Puisqu'il n'y a jamais eu de sanctions contre sa politique, et puisque les seuls qui n'ont jamais été sanctionnés ont été les Palestiniens.
Alors face à la situation actuelle, selon vous, quelles sont les attentes des Palestiniens pour le futur ?
On est allé plusieurs fois en Palestine, avec ma compagne, on a la chance d'avoir été les derniers militants internationaux à séjourner à Gaza, c'était en mai-juin 2016. S'il y a quelque chose qui fait l'unanimité chez les Palestiniens, c'est le BDS, c'est le boycott des investissements sanctions. En gros, ils disent, cette guerre, elle est née de l'extérieur, elle est née justement du partage de la Palestine, du fait qu'Israël a été admis à l'ONU alors qu'il violait toutes les résolutions, notamment le droit au retour des réfugiés. La solution de cette guerre, elle viendra de deux choses. De notre capacité à nous, Palestiniens, je les cite, hein, de continuer à faire société. Et nous avons pu constater à Gaza que même dans des conditions épouvantables, ils continuaient à produire, ils continuaient à faire la fête, ils continuaient à se marier, ils continuaient à étudier, à croire en l'avenir. Et elle viendra de notre capacité à nous, société occidentale, à obliger nos gouvernements complices à changer de politique et à sanctionner cet État voyou. Parce qu'on doit savoir que les États qui soutiennent Israël, ce n'est pas parce qu'ils sont informés, c'est parce que c'est leur État. C'est parce que justement, c'est le laboratoire de l'enfermement. C'est parce que c'est un morceau d'Europe fiché au Proche-Orient. C'est parce que pour tenir le Proche-Orient, il faut tenir Israël et les États féodaux et esclavagistes du Golfe. Mais nous devons, nous, essayer d'imposer à nos gouvernants qui respectent le droit international. Et le droit international, c'est l'égalité des droits entre Palestiniens et Israéliens. Et donc, le boycott, il a pour but à la fois de casser l'image d'Israël et d'obliger les États complices à changer de politique. C'est dur, mais on a quand même l'exemple de l'Afrique du Sud, où le boycott, quand véritablement il est devenu quelque chose d'hégémonique, a obligé les Blancs sud-africains à abandonner l'apartheid et à chercher un compromis. On a aussi l'exemple de la France. En 1961, 80% de la société française était pour lutter jusqu'au dernier Felaga exterminé. Et un an après, la même société française acceptait l'indépendance de l'Algérie parce qu'il y avait eu la sanction de la France, ça avait été 28 000 morts du contingent. La sanction d'Israël, ce sera d'être mis au banc des nations, mais il faut qu'on y arrive.
Pierre Sembol, imaginons que la campagne BDS aboutisse. Selon vous, quelle solution est viable ou envisageable actuellement ? Une solution à un État où tous les citoyens, juifs et arabes, bénéficieront des mêmes droits et vivront côte à côte, ou deux États vivant l'un à côté de l'autre, selon vous ?
Alors j'ai l'habitude de dire que deux États, ce n'est ni possible ni souhaitable. C'est pas possible parce que quand vous allez là-bas, je me souviens avoir discuté avec le maire FPLP de Bethléem de l'époque, Victor Batarsé, qui me disait « Moi je suis pour un État, mais je suis pas extrémiste. Si le Fatah obtient deux États, bien sûr qu'on l'acceptera comme étape. » Et il ouvrait la fenêtre de sa mairie et il disait « Mais l'État palestinien, vous le mettez où ? Parce que là, il y a une colonie, celle de Haroma, qui arrive à 200 mètres de la mairie de Bethléem. » Donc c'est vrai que deux États, c'est devenu impossible, parce qu'on a maintenant 750 000 Israéliens qui vivent au-delà de la ligne verte. C'est de mon point de vue pas souhaitable, parce que le sionisme, c'est la théorie de la séparation, et que la séparation est une horreur, et que bon, lutter pour l'égalité, c'est pas lutter pour chacun pour soi. J'approuve la position qu'ont pris les Palestiniens lors de l'appel BDS. Ils se sont pas prononcés sur un État, deux États ou 50 États. Ils ont dit ce qu'on veut, c'est le droit international. C'est la liberté, c'est-à-dire fin de l'occupation, fin de la colonisation, destruction du mur, fin du blocus de Gaza, libération des prisonniers. On veut l'égalité, ça concerne principalement les Palestiniens d'Israël. Et on veut la justice, ça désigne principalement le droit au retour des réfugiés, puisque le crime fondateur a été de mettre les Palestiniens dehors. Nous avons interrogé à Gaza tout le monde sur un État, deux États. Et les réponses des Palestiniens sont complètement éclatées. Ceux qui disent un État, ça veut pas forcément du tout dire un État où musulmans, chrétiens, juifs et non-croyants vivraient ensemble avec les mêmes droits. Il y en a qui disent un seul État palestinien, on verra pour les juifs, oui, ils pourront rester, on verra dans quelle mesure. Et ceux qui disaient deux États, il y en a aucun qui disait que c'était la justice. Ils disaient le monde est mauvais, c'est tout ce qu'ils vont nous accorder. Et en même temps, quand on les interrogeait sur le droit au retour des réfugiés, ils disaient ça, c'est non négociable. Bien entendu, ça fait partie du droit international et nous devons rentrer chez nous. Et je leur disais, mais rentrer chez vous dans le cadre de deux États, et ben ils disaient oui, rentrer chez nous, c'est rentrer dans le territoire actuel d'Israël, parce que à Gaza, il y a déjà 72% de réfugiés, on ne va pas en rajouter. Voilà, ces questions-là, je vois mal comment on pourra résoudre cette guerre-là sans le vivre ensemble, tout en sachant que le vivre ensemble, c'est très dur. J'ai envie de dire aujourd'hui, toutes les solutions topiques, deux États, c'est pas possible. Un État dans la situation actuelle, ça l'est pas. L'apartheid, qui est la réalité, c'est pas possible que ça continue. Donc autant lutter pour ce qui est le plus juste, et ce qui est le plus juste, c'est vivre ensemble dans l'égalité des droits.
D'accord, c'est le message est bien reçu. J'ai une dernière question à laquelle je vais vous demander de répondre selon votre cœur. À votre avis, est-ce qu'il faudra un jour créer un Yad Vashem pour les Palestiniens dont on essaie d'effacer la mémoire finalement?
Les Palestiniens, on les a jamais crus. Par exemple, il y a un truc qui est terrible. Ils ont tout de suite dit, après 1948, qu'il y avait eu des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis contre eux, et on les croyait pas. Les historiens palestiniens, comme Khalidi et tout, étaient ignorés. Il aura fallu qu'il y ait l'ouverture des archives israéliennes pour que les historiens israéliens, en 88, qu'ils soient sionistes comme Benny Morris ou antisionistes comme Ilan Pappé, Shlomo Sand, Avi Shlaim, disent « Ben oui, il y a eu des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, ils sont pas partis d'eux-mêmes et il y avait un plan délibéré pour les virer ». Oui, en tout cas, je sais pas, Yad Vashem, j'ai visité Yad Vashem, il y a beaucoup de choses à redire sur Yad Vashem, mais en tout cas, la pleine reconnaissance du crime fondamental qui a été fait contre les Palestiniens, c'est obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une paix sans la reconnaissance de la faute. Le jour où un dirigeant israélien dira « oui, nous avons commis un crime de guerre en 48, maintenant il faut le réparer », les trois quarts du chemin auront été faits.
Eh bien, Pierre Stamboul, je vous remercie infiniment pour cet échange que nous avons eu et je vous souhaite bonne chance dans votre combat militant pour la défense des Palestiniens. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Pour suivre cette émission, nous vous rappelons que vous pouvez retrouver les éléments de ce débat dans le dernier livre de Pierre Stamboul, « La Nakba ne sera jamais légitime », livre paru aux éditions Acrasi en 2018. Par ailleurs, vous pouvez réécouter l'émission en allant sur le site de Radio Agora, donc http://agoracôte-d'azur, sans accent et tout attaché, .fr. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Et nous vous donnons rendez-vous le mardi 25 juin prochain pour la prochaine émission de Parlons des droits humains. Bonsoir.